Dieu se manifeste après nous. Alors que nous étions pécheurs, il envoya son Fils unique parmi nous. Il mourut à la croix pour nous sauver.
Ce matin, le texte qui nous est proposé, c'est celui de Matthieu au chapitre 27. Nous allons commencer à lire au verset 45 jusqu'au verset 56. Matthieu chapitre 27, les versets 45 à 42 à 56. Prions le Seigneur pour écouter sa parole. Seigneur notre Dieu et notre roi, ce jour, tu nous rassembles encore dans ta maison, parce que Seigneur notre Dieu, nous nous souvenons de l'œuvre que tu accomplis à la croix. Et pendant, Seigneur, que nous sommes dans ta présence, tu veux nous instruire de ta sagesse, tu veux nous instruire de tes paroles de vie. Que tout en nous, Seigneur notre Dieu, soit disposé à recevoir cette parole et à nous laisser transformer par elle. Bénis, Seigneur notre Dieu, ce moment et que ton Saint-Esprit parle encore dans nos cœurs au nom de Jésus. Amen. Je lis pour nous le texte dans la version Louis II, 45 à 56, l'évangile de Matthieu, chapitre 27. Depuis la sixième heure jusqu'à la neuvième, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la neuvième heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eli, Eli, lama sabachthani ?» C'est-à-dire, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, il appelle Eli. Et aussitôt, l'un de courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre et l'ayant fixée à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, « Laissez, voyons si Élie viendra le sauver. » Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver furent saisis d'une grande frayeur et dirent, « Assurément, cet homme était fils de Dieu. » Il y avait là plusieurs femmes qui regardaient de loin, qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles étaient Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Amen. Hosanna, un chant. Bien-aimés, peuple de Dieu, rassemblés ici ce matin pour commémorer cet événement important de la vie de la chrétienté. Aujourd'hui est un jour exceptionnel dans l'histoire de l'Église. Il est le point d'achèvement de la mission et de l'œuvre de Christ sur la terre. Autrement dit, c'est l'accomplissement du ministère terrestre de Jésus. Trahi, condamné injustement, Jésus va subir toutes les méchancetés des hommes, les injures, les crachats, les fouets et la mort honteuse de la croix au milieu des brigands. Et le texte nous dit, depuis la sixième heure, c'est-à-dire à midi, jusqu'à la neuvième, c'est-à-dire 15 heures, il y eut des ténèbres sur toute la terre, mais aussi sur son âme, l'âme de notre Seigneur Jésus. Comment comprendre que celui qui est la lumière se trouve englouti aujourd'hui par les ténèbres? Lui qui a démontré aux hommes pendant son ministère terrestre qu'il était le maître de l'univers, comment le soleil qu'il a créé peut-il cesser de donner son éclat? La vérité, c'est que pendant ces heures sombres que Jésus subit, l'indescriptible malédiction de nos péchés, l'enfer que nous méritions, la colère de Dieu contre toutes nos transgressions se sont concentrées sur Jésus pendant ces trois heures. Nous ne pouvons pas mesurer cet abîme car nous n'avons aucune idée de ce que cela pouvait signifier pour le Seigneur de satisfaire à toutes les exigences de la sainteté et de la justice de Dieu à l'égard du péché. Nous savons simplement que durant ces trois heures, le prix a été payé, la dette remise et l'œuvre nécessaire au salut de l'homme parfaitement achevée par lui. À cette heure obscure, Jésus prenait sur lui notre idolâtrie, notre adultère, notre pratique de la sorcellerie, notre méchanceté, notre hypocrisie et toutes les malédictions qui reposait sur nous à la croix. Et Colossiens 2, les versets 13 à 15, décrit ce qui s'est passé à la croix en ces termes. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en vous faisant grâce de toutes vos offenses. Il a effacé l'acte dans les ordonnances nous condamnait et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités en les livrant publiquement en spectacle, en triomphant d'elles à la croix. Voilà l'œuvre que Christ était en train d'accomplir pendant ces heures obscures. Le texte précise que vers la neuvième heure, Jésus se cria d'une voix forte, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» On pourrait bien se demander encore, pourquoi Dieu a-t-il abandonné son Fils? Lui qui a toujours été à ses côtés, lui qui l'a accompagné, et Jésus à plusieurs reprises a dit à ses disciples que « même si vous m'abandonnez, je suis certain d'une chose, c'est que mon Père est avec moi. » Mais comment comprendre que Jésus, à cette heure, puisse demander à Dieu, « Pourquoi m'as-tu abandonné ? » Pourquoi le regard de Dieu s'était détourné de son Fils bien-aimé Jésus ? Pourquoi, à cet instant, il pouvait ressentir l'absence de Dieu ? qui pourtant tout au long de son ministère était avec lui et il ne faisait rien sans Dieu. La vérité, c'est que Dieu qui est saint ne peut pas fermer les yeux sur le péché. Au contraire, il doit le punir. Le Seigneur Jésus n'avait commis aucun péché, mais il s'est chargé lui-même de la culpabilité de tous les hommes que nous sommes pour mourir à la croix. Quand Dieu le juge s'est penché sur lui et a vu tous nos péchés accumulés sur lui, Jésus, innocent, il s'est éloigné de son Fils bien-aimé en l'entendant crier « Eli, Eli, lama sabachthani ». Quelques-uns de ceux qui étaient là disaient qu'il appelait le prophète Élie. On ne saurait dire s'il confondait les noms ou s'il se moquait de Jésus. L'un de ceux se sert alors d'un roseau pour lui tendre une éponge imbibée de vinaigre. À en juger d'après le psaume 69, le verset 22, ce n'est pas un geste de compassion qu'il accomplit ainsi. Il ne fait qu'ajouter à la souffrance du supplice. Quant à la foule présente, elle attend pour voir si Élie viendra remplir sa mission que la tradition juive lui assignait, venir en aide aux justes. Mais ce n'est pas le moment pour Élie de venir, d'après Malachie au chapitre 4, le verset 5. Par contre, le temps est venu pour Jésus de mourir. Après avoir poussé un grand cri, il rend l'esprit. Ce grand cri démontre qu'il n'est pas mort exténué, mais en pleine force. Le fait qu'il rend l'esprit distingue sa mort de toutes les autres. Il est mort parce qu'il a choisi de mourir. N'a-t-il pas déclaré « Je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai également le pouvoir de la reprendre. » Jésus n'était donc pas en train de subir la mort. C'était l'accomplissement de sa mission terrestre. La pitié pour Jésus mourant n'a aucun sens. C'est pourquoi il pouvait dire aux femmes qui pleuraient sur le chemin du calvaire, « Ne pleurez pas pour moi, mais pleurez pour vous-même et pour vos enfants. » Au moment où Jésus expire, une main invisible déchire le voile du temple qui séparait les deux pièces principales du temple. Jusqu'alors, ce voile empêchait tout homme de pénétrer dans le Saint des Saints où Dieu demeurait. Seul le souverain sacrificateur, une fois par an, pouvait entrer dans ce lieu très saint. La lettre aux Hébreux nous apprend que le voile représente le corps de Christ. Et nous lisons dans Hébreux 10, versets 19 à 20, « Nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Désormais, le plus humble des croyants peut par la prière et la louange entrer à tout moment dans la présence de Dieu. Mais n'oublions jamais que ce privilège a été acquis par un prix très élevé, le sang de Jésus-Christ. Nous comprenons très clairement que celui qui n'aime pas la présence de Dieu, c'est celui qui vit encore dans les ténèbres. Désormais, la voie est libre. Tu peux entrer dans la présence du Père sans protocole. Tu n'as plus besoin de protocole pour entrer dans l'intimité avec le Seigneur. Tu peux communier avec Dieu dans l'intimité. La barrière qu'il y avait, désormais, a été brisée. Cette barrière qui était le péché. Autrement dit, les cieux nous sont ouverts et une relation d'intimité avec le Seigneur nous est également offerte. Chacun aujourd'hui peut devenir un intime de Dieu parce que Christ a payé le prix qu'il fallait. La mort du Fils de Dieu s'accompagne aussi de grands bouleversements dans la nature, comme si les éléments inanimés exprimaient leur communion avec leur Créateur. Un tremblement de terre fend les rochers et ouvre plusieurs sépulcres. Mais notez que ce n'est qu'après la résurrection de Jésus que les occupants de cette tombe sont sortis pour entrer dans Jérusalem et sont apparus à un grand nombre de personnes. La Bible ne dit pas si ces saints sont morts une deuxième fois plus tard ou s'ils sont montés au ciel avec le Seigneur Jésus. Ces phénomènes étranges persuadent le centenier romain et ses hommes qui étaient chargés de la garde de Jésus qu'assurément cet homme était le Fils de Dieu. Cette déclaration démontre à suffisance que ce centenier reconnaît Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qu'il est plus qu'un homme. Ses paroles témoignent de la crainte qu'il éprouve et du lien qu'il établit entre les phénomènes surnaturels et la mort de Jésus, mais pas de ceux qui étaient crucifiés avec lui. Bien-aimés, est-ce que la mort et la mort de Jésus-Christ aujourd'hui te dit quelque chose? Est-ce que cette mort à la croix t'amène à revoir ta relation avec lui? Est-ce que cette mort à la croix te persuade sur le grand amour que Dieu a manifesté pour toi? Est-ce que cette mort à la croix, cette œuvre de Christ, te pousse à détester le péché et avoir de l'amour pour une vie de sainteté? Quelles sont les questions que nous pouvons nous poser? Le centenier romain, lui, il a compris, j'imagine, que sa vie ne serait plus jamais la même quand il s'est rendu compte qu'assurément cet homme qui était au milieu de la croix était le Fils de Dieu. Est-ce que tu vas sortir d'ici tel que tu es entré et continuer à vivre dans le péché? Ce serait rendre vain le sacrifice de Jésus à la croix. Ce serait rejeter la grâce que le Seigneur t'accorde. Ce serait mépriser l'amour qu'il a manifesté pour toi. Bien-aimé dans le Seigneur, prends la ferme décision de renoncer au péché qui a conduit Christ innocent à la croix. C'est pour toi, c'est pour moi qu'il est mort à la croix. C'est pour nous purifier, c'est pour nous libérer de toute forme de captivité et de malédiction qu'il a accepté cette mort, pour qu'aujourd'hui tu sois déclaré libre et affranchi. Si aujourd'hui, bien-aimé, tu peux être heureux et expérimenter la joie, c'est à cause de l'œuvre de Christ à la croix. Si aujourd'hui tu peux remporter la victoire sur les forces des ténèbres, c'est à cause de l'œuvre de Christ à la croix. Si aujourd'hui tu peux avoir une place dans le royaume des cieux, c'est à cause de l'œuvre de Christ à la croix. Et c'est l'occasion pour nous de nous examiner et de nous demander quelle est notre relation avec le Seigneur. Est-ce que l'œuvre de Christ à la croix te parle encore aujourd'hui? Ou alors c'est devenu une histoire banale? Quoi que tu sois au courant de cette histoire, ta vie demeure la même. Une vie dans le péché, une vie dans la corruption, une vie dans la compromission dans toutes ses formes. Dieu te dit ce matin, il faut que mon œuvre à la croix te parle et te donne de réaliser le grand amour que j'ai pour toi et de saisir la grâce qui t'est offerte de te réconcilier avec moi et d'entrer dans une intimité avec moi. Bien-aimé dans le Seigneur, il est important pour nous de comprendre que désormais, notre vie est entièrement consacrée au Seigneur à condition de l'accepter et de croire en l'œuvre qu'il a accomplie pour chacun d'entre nous à la croix. Ce n'était pas seulement pour les habitants de Jérusalem de cette époque, mais c'était pour des générations et des générations des hommes qui devaient venir après et qui devaient peupler la terre, parmi lesquels toi et moi. C'est pour nous qu'il est mort à la croix. Aujourd'hui, notre vie n'a de sens que par rapport à la présence de Christ dans notre vie. et par rapport au fait qu'il a accepté. Si Dieu, pour quelques instants, a détourné son regard du Christ, c'est parce qu'il portait en lui le péché. De même, si le péché subsiste dans ta vie, Dieu ne peut jeter un regard favorable sur ta vie. Accepte de renoncer au péché. Je sais que le Seigneur est en train de te parler d'une situation dans laquelle est-ce que tu es perdu encore maintenant. Dieu te dit, abandonne ce péché. C'est pour ça que je suis mort. Je suis mort pour ce péché. Je suis mort pour te rendre libre. Je suis mort pour te donner de ne plus être sous le joug de l'ennemi, mais de venir à la grâce et d'obtenir la joie que seul le Christ procure. Le Seigneur Jésus te tend la main encore ce jour et veut que tu sois réconcilié avec lui. Dieu ne peut pas nous séparer des choses que nous aimons. C'est clair, n'est-ce pas? Dieu ne nous sépare pas de nos amis, mais il nous sépare de nos ennemis. Il faut que nous commencions à détester le péché pour que Dieu nous sépare de ces choses. Est-ce que tu détestes la vie de péché dans laquelle est-ce que tu es? Est-ce que tu as de la haine pour le péché qui t'a embrigadé? À ce moment, Dieu peut te sauver et Dieu peut te racheter. Dieu peut te restaurer. Mais si tu prends encore un malin plaisir à vivre dans le péché, à vivre dans la compromission, Dieu ne peut intervenir d'une manière efficace dans ta vie. Tu dois lui faire confiance et accepter l'œuvre qu'il a accomplie à la croix pour toi. Je voudrais nous inviter à ne pas sortir d'ici tel que nous sommes entrés, mais à ressortir déchargés. C'est ça le sens de notre présence ici ce jour. Déposer nos fardeaux, nos péchés à la croix de Jésus. Et lui dit, Seigneur, j'ai besoin de la liberté. J'ai besoin d'être affranchi par toi. Parce que celui que le Christ a franchi, celui-là, il est réellement libre. Je voudrais nous inviter à prendre un temps maintenant dans la prière et à lui dire, Seigneur, prends ma vie.
Je ne peux imaginer ce que tu as fait pour moi. À la croix, tu as pris ma place. Jésus s'est donné. Je ne peux imaginer ce que tu y as fait pour moi. À la croix, tu as pris ma place. Jésus s'est donné. Fidèle, fidèle, Dieu est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle.
Bien-aimé, Jésus est fidèle. Pendant qu'il venait sur la terre, il savait clairement ce qu'il avait à faire. Il ne venait pas pour lui-même, mais il venait pour toi et pour moi. Le péché d'Adam et de Ève nous avait séparés de Dieu parce que nous avions hérité de ce péché. Mais Jésus est venu pour combler le fossé qui nous séparait de Dieu. Il a été fidèle d'un bout à l'autre de sa mission. Il a été fidèle en toutes choses, accomplissant parfaitement l'œuvre que son Père lui avait confiée. C'est pourquoi il pouvait dire qu'il n'est pas venu pour accomplir sa volonté, mais pour accomplir ce que son Père lui avait donné comme instruction. Jésus est fidèle. Et ce jour, nous nous souvenons de sa mort. Lui, le juste, il a accepté de devenir injuste en prenant sur lui tes péchés. Dis-lui, Seigneur, s'il te plaît, prends mon péché. Seigneur, prends ma misère. Seigneur, prends mes douleurs, prends mes souffrances. Seigneur, je les dépose à ta croix. Je dépose, Père éternel, notre Dieu, toutes ces choses à tes pieds, Seigneur, ce matin. Dis au Seigneur que tu veux t'approprier cette œuvre à la croix. Peut-être que tu ne réalises même pas la profondeur et la signification réelle de sa mort, mais dis-lui simplement, Seigneur, je veux déposer à ta croix tous ces fardeaux. Seigneur, je refuse que malgré ce que tu as accompli, Seigneur, pour moi, je continue, Père éternel, de porter mon péché. Je continue de souffrir, Père éternel, dans le péché. Je continue, Père éternel, de m'enfoncer dans les ténèbres. Ô Jésus, s'il te plaît, ôte mon fardeau. Ôte mon péché. Ôte ma misère, Seigneur. Dis au Seigneur que tu désires que son sang qui a coulé à Golgotha te lave maintenant. Dis-lui, Seigneur, je ne veux pas sortir ici tel que je suis entré, mais je veux tout laisser ici avant de sortir. Je veux laisser, Seigneur, au pied de ta croix parce que je crois que tu es présent ici au milieu de nous. Seigneur, s'il te plaît, que ce ne soit plus la même personne pécheresse. Seigneur, notre Dieu, notre Roi qui est entré ici, qui ressorte de ce temple. Seigneur, je veux tout déposer et ressortir affranchi. Affranchi, Seigneur, notre Dieu, par toi. Dis au Seigneur merci pour cette manifestation de son amour. Parce qu'il a concrétisé en sa mort l'amour qu'il avait pour toi et pour moi. Dis-lui merci, Seigneur, pour ce sacrifice. Merci pour ce grand amour. Merci infiniment, Seigneur. Merci infiniment pour l'œuvre que tu as accomplie. Merci parce que désormais nous sommes réconciliés avec toi par l'œuvre de la croix. Le voile, Seigneur, n'est plus. Il a été déchiré, Père éternel. Désormais, nous pouvons avoir accès à toi. Christ nous a tracé le chemin et nous a ouvert la voie. Il a établi le pont qui manquait pour nous connecter à toi. Seigneur notre Dieu, donne-nous de grandir dans l'intimité avec toi. Donne-nous, Seigneur, de soupirer après des moments d'intimité avec toi chaque jour de notre vie, afin que, Seigneur, notre vie te soit entièrement agréable. Merci, Seigneur, de nous exaucer, même au-delà de ce que nous te demandons.